tête chercheuse avec aujourd'hui Pierre Jourde, l'écrivain. Et ensemble, durant toute une heure, on va parler de la culture, de la place de la culture dans la France d'aujourd'hui.
Ce que j'appelle, moi, culture, c'est l'ensemble des productions d'ordre symbolique, disons, hein, le mot est important, par lesquelles les hommes se représentent leurs conditions. Et par conséquent, si on définit le mot culture comme ça, la culture, c'est ce qui fait de l'homme un homme. Il n'y a pas d'exemple d'homme sans culture, à part peut-être l'enfant sauvage... mais c'est évidemment rarissime. Et je crois qu'il faudrait ajouter aussi que, de ce point de vue-là, la culture n'est pas seulement de l'ordre de la représentation, elle est aussi de l'ordre de la production, de la création, en ce sens que elle fabrique de l'homme. Elle fait l'homme tel qu'il peut avoir une expérience du monde. La culture, c'est, dans cet ordre-là, un petit peu, non pas seulement une représentation, mais un cadre de l'expérience et de la représentation, un peu, si vous voulez, comme le temps et l'espace chez Kant sont des représentations a priori. La culture est-elle une culture de résistance? Pas nécessairement. Ça l'est devenu dans des représentations modernes dans lesquelles on considère que l'art, par exemple, doit d'abord être une révolte. Et de manière très caractéristique, je vous prends un exemple. Il y a eu une émission sur France Inter, avec j'écoute beaucoup cette honorable radio, où l'on parlait des fameuses destructions par l'État islamique en Irak de stèles qui représentaient des dieux ailés de l'époque assyrienne, si je me souviens bien, ou babylonienne. Et l'émission sur France Inter était entrecoupée de montages sonores dans lesquels on entendait des phrases telles que « l'art est révolte ». Si je comprends bien donc... il s'agissait de nous faire entendre que l'art tel qu'il a été détruit par les fanatiques de l'État islamique était en soi une révolte. Or, qu'est-ce que c'était que ces représentations qui ont été détruites par Daesh? C'était des représentations de divinité qui étaient censées garder le palais royal. En ce sens, je veux dire que l'art, dans ses manifestations jusqu'à l'époque classique, n'est pas du tout une révolte. Il est indissociable du pouvoir. La représentation artistique est indissociable de la religion dominante et du pouvoir. Elle n'est pas révolte en soi. En revanche, on peut dire d'une manière plus générale qu'elle esquisse une sorte de réaction humaine face aux limites de sa condition. Ça serait une autre manière de dire les choses. Mais comme révolte sociale, vous voyez que c'est pas si simple et c'est pas si discutable. Autre élément, est-ce qu'on va considérer que l'art est une révolte contre, à l'époque où on parle d'identité nationale, par exemple? Je reprends ma définition du Larousse, l'art est l'ensemble des productions intellectuelles propres à une culture ou à une nation. Donc on va parler effectivement de culture gréco-romaine, de culture britannique, de culture espagnole. Donc ça sera l'expression, pour reprendre une formule un peu ancienne, d'une sorte de génie national, ou ce que Taine appelait d'ailleurs la race. C'est pas un mot qui a un sens ethnique, et on est là à la fin du 19e siècle, c'est pas un mot qui a seulement un sens ethnique, c'est un mot qui désigne l'espèce de génie culturel propre à une entité nationale.
Un espace donc géographique.
Un espace géographique, un espace linguistique aussi, c'est ça qui est extrêmement important. Mais, et c'est là l'ambiguïté propre à toute production culturelle, c'est que la culture contient en elle sa propre autocritique, sa propre remise en question. Nulle part, ça n'est mieux mesurable que dans la culture française. Puisque la culture française, on peut dire qu'elle est l'expression d'un esprit propre à une nation, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit d'une nation? Ça veut dire en fait une histoire et une langue dans son évolution. Bon, des rapports sociaux, une histoire, etc. Mais cette culture française, précisément, peut-être plus que toute autre culture, a toujours eu une aspiration à l'universalité, une aspiration à sortir d'elle-même, et à sortir d'elle-même jusqu'à entrer en contradiction avec l'aspect national de sa propre culture. On ne l'a jamais mieux mesuré qu'au moment de la Révolution française. Là, on parle un peu plus politique, mais il y a une dimension culturelle très importante. Toute l'Europe parlait français, toutes les élites européennes parlaient français. La Révolution et les guerres napoléoniennes exportent partout en Europe les idées démocratiques. Et ces idées démocratiques reviennent dans la figure de la France, puisque au nom des idées démocratiques et au nom des idéaux nationaux, précisément, on va des États comme la Prusse, par exemple, vont se révolter contre la domination française. Je me souviens d'avoir participé à un numéro spécial de la NRF, chez Gallimard, qui renouvelait l'idée d'un Tour de France. D'un Tour de France des régions, des provinces, etc. Je crois que j'étais pratiquement le seul à prendre une province, l'Auvergne, parce que presque tous les autres participants prenaient ce prétexte pour dire que finalement tout ça, le provincialisme, la France, c'était quelque chose sur quoi il fallait revenir. Certes, mais je crois que précisément le travail de toute culture, c'est de creuser tellement une particularité que on finit par en sortir. On finit toujours par trouver l'issue dans l'excès de cette particularité. Et je crois que c'est le seul destin enviable. Et ça doit fonctionner, à mon avis, au niveau de l'identité sexuelle, au niveau de l'identité ethnique, au niveau de l'identité provinciale, pour parler de l'Auvergne, ou au niveau de l'identité nationale. Vialat disait que une langue, pour vivre, avait besoin d'un frein et d'un aiguillon. C'est-à-dire qu'il fallait des gens qui admettent et introduisent des nouveautés, parce que c'est nécessaire, parce que une langue est un organisme vivant et qu'elle doit avancer, évoluer. Et qu'il fallait un frein, parce que sinon, on finirait par ne plus se comprendre. Je crois qu'il y a un peu de ça. Je dirais que, s'il y a un danger, alors, est-ce qu'il y a danger, d'abord? Est-ce qu'il y a danger? Est-ce que ce danger est nouveau? On est arrivé, je crois, à un moment donné, dans les années 1970-80, dans lesquelles la culture n'a jamais été aussi répandue et démocratisée. C'est-à-dire que ça a mis un siècle, mais les hussards de la République avaient fini par gagner ça. Voilà. Et puis, il s'est passé quelque chose. Peut-être il s'est passé quelque chose dans autour de l'école qui a fait que, effectivement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais je suis pas sûr que ces problèmes soient aussi graves et aussi dramatiques que le disent les tenants de la perte de tout. Il y a des problèmes qui sont notamment des problèmes précisément d'apprentissage de la langue et de ce qui permet d'accéder aux grands textes classiques. C'est-à-dire que nous, quand on arrivait à l'université, ce qui était de l'ordre de la langue étrangère, c'était la langue du Moyen-Âge, un petit peu la langue de Rabelais. Bon, ça nécessitait un apprentissage. Aujourd'hui, en tant que professeur d'université, c'est vrai que je vois arriver des premières années pour qui Balzac est une langue étrangère. C'est-à-dire qu'il y a un fossé syntaxique et lexical qui s'est creusé complètement et qui porte sur des textes qui ont un siècle. C'est inquiétant. Figurez-vous que j'ai, et c'est pas seulement des gens comme Finkielkraut qui le disent, c'est aussi Philippe Solers. Je sais pas si vous avez vu, on a republié le traité sur la tolérance de Voltaire, donc, avec une postface de Philippe Solers, qui dit très justement, pour une fois que je dis du bien de Philippe Solers, il faut le souligner, qui dit très justement que les problèmes que nous avons autour de la tolérance, tolérer que Charlie Hebdo publie des caricatures, tout le débat qui s'est institué autour de ça, est en grande partie à la fois induit et déformé par le manque de culture. C'est-à-dire que, prenons un exemple très concret, le jeune de culture musulmane qui est révolté par la caricature de Charlie Hebdo, le serait sans doute moins, ou en tout cas aurait une approche un peu différente, s'il savait ce qu'a écrit Voltaire sur le christianisme, s'il savait ce que les caricaturistes tout début du XXe siècle ont écrit sur le christianisme et la religion. Et voilà. La culture a besoin d'être défendue, c'est-à-dire que la culture a besoin de l'intervention de l'État, en tout cas en France. Et dans les pays anglo-saxons, il y a une tradition de mécénat, c'est-à-dire d'intervention effectivement de l'argent dans la production culturelle, qui fonctionne tout à fait différemment. En France, l'intervention de l'État, elle est décisive. Elle l'a été notamment pour le prix unique du livre, c'est-à-dire que si on avait laissé faire le marché, bien tout simplement le livre en serait aujourd'hui sans doute au niveau où en est le CD, c'est-à-dire que plus personne n'en achète et que tout se fait gratuitement par téléchargement. Or le livre résiste en grande partie à cause de réseaux qui échappent à l'emprise du marché. Il y a en France un réseau de résidences d'écrivains ou d'artistes ou de musiciens subventionnés par l'État ou de plus en plus et beaucoup par les collectivités locales, des bourses qui sont distribuées par exemple par le CNL, mais aussi par des fondations privées, il faut bien le dire. Je suis moi-même membre du jury d'une fondation privée qui accorde des bourses d'écriture. Alors, c'est compliqué en effet. Il faut résister au tout commercial, parce que si on ne résiste pas au marché, nous n'aurons plus que du Marc Lévy, c'est-à-dire que nous n'aurons plus que de la production littéraire industrielle, c'est certain. Le bon écrivain qui vend 3000 exemplaires aura du mal à exister. S'il y a une chose qui est très inquiétante, c'est le temps de rotation de la production culturelle. Il y a une fuite en avant qui est la loi du marché, c'est-à-dire qu'il faut produire, il faut produire, il faut produire. Et donc une production est tout de suite remplacée par une autre. Le temps de rotation aujourd'hui d'un livre dans les librairies, là où il est en place, en gros, je dirais, c'est 1 à 2 mois, en étant, oui, à peu près. Et c'est à peu près le taux de rotation d'un film, même d'un film grand public. C'est-à-dire que le temps que je vois passer les affiches du dernier Clint Eastwood, que je me décide à trouver le jour où je vais y aller, il n'y est plus, d'une certaine manière. Ça c'est très inquiétant, parce qu'on ne laisse plus aux choses le temps de s'installer. Mais il n'y a pas que les lois du marché. J'avais été profondément frappé par tout ce qui s'est passé, vous savez, autour de la princesse de Clèves, sous Nicolas Sarkozy. Pour certaines catégories de fonctionnaires, il y avait encore des épreuves littéraires. Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy s'était gaussé, mais qu'est-ce qu'on va apprendre la princesse de Clèves à quoi? À des futurs employés des postes, hein, je crois. En gros, c'était ça. Bon, c'était peut-être pas très étonnant de la part de quelqu'un qui, en effet, défend le libéralisme et les lois du marché, c'est vrai. Mais là où c'était étonnant, c'était que, à l'inverse, on demandait en quelque sorte une protection de l'État pour l'association des Noirs de France. Ça paraît surprenant que l'association des Noirs de France s'élève contre la littérature pour les fonctionnaires. Tout simplement parce que cette association, Michel Wieworka notamment fait partie, je crois, du comité de cette association, considérait qu'il fallait, que les minorités soient présentes dans les concours de fonctionnaires, qu'elles soient reçues dans les concours de fonctionnaires, et la culture, c'est discriminatoire. Vous voyez à quoi on en est arrivé. La culture, c'est discriminatoire, donc c'est en quelque sorte une espèce de bourdieusisme complètement perverti, qui considère que la littérature, bon ben voilà, c'est inutile, ça va empêcher les gens qui sont pas très cultivés de devenir postiers. Autrement dit, on a là l'alliance objective, d'un côté du libéralisme, bon ça sert à rien, supprimons-le, et de l'autre, d'une espèce de gauche qui considère que c'est une forme de discrimination. C'est discriminatoire. L'idéal des deux étant que nous avons à former des visseurs de boulons. Et pas des gens qui vont réfléchir sur leur vissage de boulons. C'est quand même une perversion. C'est pas une perversion du libéralisme, il est dans son rôle, mais c'est aussi une perversion de la pensée de gauche que je trouve redoutable.
Et si on prenait cet exemple, en essayant de défendre ce point de vue, pour reparler d'ailleurs de qu'est-ce que la culture française, si, pour ces gens-là, pour ces intellectuels, la Princesse de Clèves, on pouvait ne pas la connaître, et connaître par exemple à la place Les Damnés de la Terre de François Fanon. Donc, est-ce que c'est pas effectivement discriminant de demander à tout le monde d'être dans le même moule, d'avoir les mêmes repères culturels?
Vous avez raison, c'est une vraie question. D'ailleurs, Aimé Césaire disait, et ça irait tout à fait dans le sens de ce que vous dites, que pour arriver à être universel, il faut être d'abord martiniquais à fond. Et ensuite, on va pouvoir en quelque sorte étendre ce qu'on a trouvé là.
Martiniquais ou breton ou corse, enfin voilà.
Exactement. C'est aussi ce que faisait Vialat sur l'Auvergne. C'est-à-dire qu'il prenait un particularisme et il y trouvait tout. Il l'étendait jusqu'à le dissoudre complètement dans pratiquement toutes les formes de culture. Donc je trouve ça effectivement très bien. Le danger, c'est quand même de créer des ghettos culturels. Je me souviens que j'avais eu cette discussion à un colloque, à des rencontres littéraires, avec André Chiffrin, qui disait que dans son université américaine, alors c'était très américain comme discours, puisque en fait il était installé aux États-Unis depuis très longtemps, dans son université américaine, il y avait des cours libre, gratuit, pour que pas seulement les étudiants, mais aussi les membres du personnel puissent venir y assister. Voilà, et donc se cultiver des cours de littérature. Il disait, mais à l'université, les gens qui lavent les parquets, ils sont noirs. Et donc ce qu'il faudrait, c'est leur faire des cours de littérature négro-américaine, etc., etc. Je suis très réservé par rapport à ça. C'est un peu comme si je disais que mes parents et mes grands-parents sortent de l'Auvergne, et donc j'aurais dû boire à la mamelle uniquement la production littéraire auvergnate, ou la production artistique auvergnate, et je serais devenu peut-être un très bon accordéoniste de bal. Vous voyez, il y a un côté extrêmement limitatif et étroit aussi dans cette démarche. Je crois qu'il faut, il faut pas avoir peur de sortir aussi complètement de son lieu, de sa culture, d'aller voir précisément ailleurs.
Qu'est-ce que vous préconisez alors, Pierre Jourde, qu'on réécrive au fur et à mesure qu'on avance l'histoire de la culture française, quitte à intégrer toutes ces cultures régionales ou autres d'ailleurs?
Je ne le préconise pas seulement, ça se fait à l'université depuis très longtemps, depuis au moins 30 ans. On a depuis longtemps intégré la culture populaire, les cultures régionales, les études sur la production littéraire dans les pays francophones sont de plus en plus importantes et de plus en plus répandues. Donc, de ce point de vue-là, c'est très bien, avec toujours ce... Il faut garder à l'esprit que on ne veut pas être enfermé là-dedans. Je me souviens très bien d'un auteur péruvien, là encore, à Saint-Malo, qui disait « Mais moi, je ne veux pas être considéré... » Parce qu'on lui parlait tout le temps du Pérou et de la culture andine, etc. « Mais je ne suis pas d'abord un auteur péruvien, je suis un écrivain. » C'est aussi dangereux et réducteur pour ces gens-là de les lire en quelque sorte comme des... à la limite, on va les lire comme des auteurs folkloriques. Alors ça va être un petit plus, parce que ça va avoir le parfum de l'exotisme, mais il faut les lire comme des gens universels. Fabienne Canor, que j'ai connue en résidence d'écriture, était publiée chez Gallimard dans une collection uniquement, je crois que c'est Continent Noir, hein, uniquement consacrée aux écrivains de couleur. Elle disait, mais j'ai quand même le sentiment d'être dans mon ghetto. Est-ce que je suis d'abord un écrivain ou est-ce que je suis d'abord une noire?
Le bonheur est une attitude face à ce qui se passe et qui fait souffrir, qui pourtant laisse la latitude de trouver en lui ce qui nourrit et fait grandir. Tu tu voles de tous les mots, tu te décharges, tu nages dans l'air, tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes, tu tourbillonnes. Corps et âme sont en accord, tes colères en évanescence t'adaptent, t'adoptent, tout concorde. Et tu voles de tous les mots, tu te décharges et tu nages dans l'air. Tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes et tu tourbillonnes.
Il y a une chance linguistique, c'est l'Afrique. Parce que l'Afrique est en pleine explosion démographique, ce qui fait que la France va bientôt être une des langues les plus parlées dans le monde. Va rejoindre le niveau de l'espagnol et de l'anglais. Et ça, c'est effectivement une chance considérable. L'apport d'ailleurs linguistique, l'apport potentiel, parce qu'on ne le mesure pas encore assez, l'apport linguistique potentiel de l'Afrique à l'évolution du français me paraît être aussi une chance, parce que en Afrique, il y a encore ce qu'on peut appeler une langue populaire. Il y a aussi des réseaux de diffusion de la culture française, que sont par exemple les instituts de France à l'étranger, qui ont un réseau très important. Il y en a dans pratiquement tous les pays du monde. Là, malheureusement, nous avons un problème parce que ces instituts de France sont de plus en plus appauvris, de moins en moins irrigués financièrement, alors qu'il y a toujours de la demande, la demande pour accéder à la culture française, la demande pour accéder à la langue. Et ce sont des lieux souvent très importants, par exemple en Inde, par exemple à Ceylan, par exemple au Japon. Et je ne suis pas sûr que les autorités françaises prennent mesure l'importance de ces lieux de diffusion, alors que les Espagnols ou les Allemands, par exemple, sont en pleine expansion.
Mais à vous entendre, Pierre Jourde, pour vous, la culture française est indissociable de la langue française. C'est-à-dire que Victor Hugo traduit en arabe, que Jean Renoir sous-titré ou même doublé en chinois, ou même que Derrida en espagnol, ça cesse d'être de la...
Non, vous avez raison. Vous avez raison, c'est aussi un moyen important de diffusion, bien sûr. C'est vrai que je me suis un peu focalisé sur la langue et sur la littérature, et j'ai tort. Alors, mais parlons traduction, si vous le voulez bien, précisément. Là, il y a quand même, me semble-t-il, un grand déséquilibre commercial culturel. Un peu semblable à ce qui s'est passé à un moment donné au début du 19e siècle, vous savez. Avant le début du 19e siècle, en France, la France était exportatrice de culture. On exportait Voltaire, on exportait Rousseau, qui étaient les grands penseurs européens de l'époque. À partir du 19e siècle, nous sommes devenus des importateurs culturels. C'est-à-dire que ce qui a vraiment fécondé la culture française, c'est l'Allemagne, par exemple.
C'est-à-dire que c'est la fin des intellectuels français ?
Alors non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire, mais nous sommes de grands traducteurs. Nous sommes peut-être les plus grands traducteurs au monde, et nous sommes assez peu traduits dans les grands pays de consommation culturelle, par exemple les États-Unis. Les États-Unis, par exemple, en sont encore à la French Theory. Ils n'ont pas découvert grand-chose depuis
compris.
Derrida.
Ça ne veut
pas dire que ça n'existe plus. Oui. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas de production culturelle, mais... Voilà, ça ne s'exporte pas, ça s'exporte moins.
Alors, la bouteille est à demi pleine ou à demi vide? Est-ce qu'on peut dire c'est une chance parce qu'en France, nous, on reçoit toutes les cultures du monde et on en fait notre culture, contrairement aux autres pays qui sont à la traîne ou qui sont renfermés sur eux-mêmes? Ou on pose la question, comme vous venez de le poser, Pierre Jourde, à savoir que la culture française ne s'exporte plus?
Oui, alors, si vous voulez... ça a été très important le moment de du romantisme qui est d'importation allemande, et c'est très bien, je suis très content, faut pas se plaindre. En tant que consommateur culturel, je suis très content qu'on traduise pratiquement tout. Mais en tant que producteur, je suis beaucoup moins content parce que j'ai beaucoup de mal à... J'aimerais être plus... J'essaie de m'exporter en Italie, aux États-Unis, et c'est difficile. C'est très difficile de se faire traduire. Regardez qui est invité, par exemple, pour représenter la France aux États-Unis. Quels sont les écrivains qui s'exportent aux États-Unis? Houellebecq, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Houellebecq, mais qui ont... Marie Dariussecq.
Là, vous faites la grimace.
Dec Bédér. David Fuenquinos. C'est quand même pas Sartre et Camus. Et on a des auteurs autrement plus importants à proposer. Pourquoi pas Pierre Michon, pourquoi pas Éric Chevillard, pourquoi pas Franz Bartelt, qui sont quand même autre chose que David Fuenquinos. Ça m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire que de plus en plus, on en a parlé, mais de plus en plus, les choix des importateurs étrangers sont des choix économiques. Ils savent déjà que ça va marcher, et c'est ça qu'ils font venir.
Et pour parler du monde, de la culture mondiale, j'ai l'impression du moins que en France, on a plus de chances d'être au courant de tout ce qui se fait dans le monde que si on était en Asie, ou en Amérique, ou en Afrique.
Il faut relativiser quand même. Si vous allez au Japon, vous avez des... Bah d'ailleurs, écoutez, la Sorbonne est pleine de Japonais et de Coréens qui font des tests sur Huysmans. Hein, donc, et aussi d'Iraniens, et aussi d'Africains. Donc, la culture française classique au sens large, est quelque chose qui est quand même encore très très important à l'étranger.
Est-ce qu'on peut parler d'une culture mondialisée aujourd'hui, Pierre Jourde? Et est-ce qu'il faut l'accueillir plutôt avec joie, avec satisfaction, en disant c'est le cours de l'histoire?
Oui, c'est le cours de l'histoire. Je vois pas comment une culture pourrait être autrement que mondialisée. Je veux dire que c'est fait pour ça, d'une certaine manière. C'est fait pour...
Vous voulez dire que ça l'a toujours été?
Ça l'a toujours été dans les moyens de diffusion qui étaient ceux de l'époque. C'est-à-dire que la culture gréco-romaine était la culture mondialisée de l'époque. Et on va pas s'en plaindre, on va pas s'engloter là-dessus. Hein. C'est très bien. C'est très bien. D'autant que cette culture-là, par exemple, a fait montre de sa capacité à intégrer très facilement des productions étrangères. Les productions, par exemple, les dieux égyptiens qui se sont intégrés très naturellement à la culture gréco-romaine. Ce qui a été un clash culturel, une scission culturelle un peu plus difficile, ça a été les grands monothéismes, et notamment le christianisme, dont la capacité d'intégration au départ n'a pas été aussi grande, aussi souple.
Mais récupérer des modes culturels, des expressions culturelles, pour les adapter à un environnement français, c'est ce qu'on a, ça on peut le retrouver aussi bien en musique, dans le cinéma, dans la littérature, Pierre Jourde, c'est plutôt un enrichissement ou c'est dénaturer une culture française bien définie?
Mon Dieu, comment pourrait-on penser ça alors que notre imaginaire se nourrit de choses qui n'appartiennent même pas à notre histoire, à notre espace? Regardez, quand j'étais gamin, on jouait aux Indiens et aux cow-boys. Voilà une importation culturelle. Eh bien, évidemment, la France n'a pas connu la conquête de l'Ouest, mais on y a trouvé d'autres choses. Les Indiens et les cow-boys rejoignaient quelque chose d'éternel, qui était sans doute l'héroïsme, les valeurs, les grandes valeurs morales. D'une manière, c'était Corneille renouvelée, les Indiens et les cow-boys. Les enfants ne jouent plus aux Indiens ou aux cow-boys, c'est terminé, ça n'existe plus. Maintenant, c'est la culture japonaise qui est là. Ils jouent plutôt avec les katanas, ils jouent aux samouraïs, et c'est très bien. C'est très bien parce que là encore, ils ont des chances de trouver des choses qui ont une sorte de... Oui, qui ont une valeur universelle. Si vous lisez les 47 Ronin, par exemple, eh bien, voilà, sont en cause la fidélité, la discipline, des choses comme ça qui sont magnifiquement représentées dans
On est d'accord, mais pourquoi ça continue à faire débat, l'introduction des mots étrangers dans la langue française, des arts ou des expressions artistiques qui se basent, qui reprennent des genres venus d'ailleurs, ça continue à poser débat?
Oui, bah, ça continue à faire débat parce que je pense que le principe est difficilement contestable. Ça continue à faire débat parce que cette importation culturelle finit par produire des espèces de caricatures, qui sont un peu ridicules, mais qui ne concernent que. C'est vrai que quand vous ouvrez un journal féminin et que vous tombez sur un mot, une expression anglaise que vous comprenez pas toutes les lignes, c'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est pas grave, en fait. C'est l'écume de ce brassage culturel. On a l'habitude en France de dire beaucoup de mal de toutes nos bonnes vieilles institutions. On se moque, et on a raison bien sûr, de l'Académie française. On critique violemment, je l'ai fait moi-même, les prix littéraires. Et on dédaigne le Salon du Livre. On peut critiquer l'usage qui est fait des prix littéraires. En soi, je pense que heureusement qu'on les a. Et la rentrée littéraire aussi. Le Salon du Livre, c'est un lieu très important, notamment pour les... Alors, je ne sais pas si important pour les gros éditeurs. C'est un lieu très important pour les petits éditeurs.
Mais qui ont de plus en plus de mal à se payer une petite place.
Alors, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ce qui se passe pour les petits éditeurs, c'est que de plus en plus, ils sont regroupés par les régions. En fait, si j'ai bien compris, c'est les régions qui payent...
Donc, une politique d'État, la puissance publique qui soutient. Voilà, une subvention, ça s'appelle.
Qui soutient. C'est un moyen pour les auteurs de... se rencontrer, de rencontrer des éditeurs, de rencontrer des lecteurs. Et donc, pour moi, c'est une très bonne chose. J'ai regretté, il y avait une question de place, qu'il soit plus au Grand Palais, qui était vraiment un endroit magnifique. C'est vrai que là, la porte de Versailles, c'est un peu dur. Mais bon, voilà.
Et s'il fallait parler de la production littéraire, Pierre Jourde ?
Parlons-en.
Tous les mois de septembre, enfin, ça commence dès la fin août, on parle de la surproduction en France, une surproduction de livres. On a fait le même constat d'ailleurs à Angoulême, une surproduction de bandes dessinées. Jamais le secteur n'essaie aussi bien porté. Et pourtant, cette surproduction a pour conséquence négative un statut de plus en plus précaire pour les auteurs qui n'arrivent plus à vivre de leurs livres, de leurs bandes dessinées.
Je ne sais pas qui y arrive, hein. c'est assez rare. Alors, la surproduction est pratiquement la même maintenant au mois de janvier. En fait, vous avez deux moments de surproduction, c'est-à-dire qu'en septembre, on est à 700 ouvrages publiés, fiction, et en janvier, on doit en être peut-être à 500 ou 600, quelque chose d'achat. Est-ce qu'il faut se plaindre qu'on ait le choix ? Est-ce qu'il faut se plaindre que tant de choses soient publiées ? Si vous dites que vous publiez moins, vous allez désespérer l'auteur qui cherche depuis des années à placer son manuscrit et qui n'y arrive pas parce qu'on n'a pas de place pour lui. Mais ça entraîne un problème évident, c'est que les libraires ne peuvent plus défendre tant de choses et même mettre en place tant de choses. C'est impossible. On leur propose trop d'ouvrages, donc voilà, ils ne peuvent pas. Les auteurs eux-mêmes, c'est vrai que quand j'entre dans une librairie, notamment au mois de septembre, j'ai dit mais pourquoi est-ce que j'écris, pourquoi est-ce que je vais rajouter mon pavé à une telle et monstrueuse production.
Cela ça rappelle le beau dessin de Chapat en septembre. Je ne sais pas si vous en souvenez, Pierre Jourde, c'est un couple qui dit les Français ne lisent plus. Et il termine en disant ils écrivent. Ils sont effectivement noyés dans une librairie ou avec plein de stocks de livres.
C'est d'ailleurs un paradoxe qui est plus fort encore pour la poésie. Personne n'en lit et personne n'en achète, mais tout le monde en écrit. Quand je fais des sondages auprès de mes étudiants pour savoir ce qu'ils écrivent, ils écrivent de la poésie. Mais ils n'en lisent jamais. C'est assez curieux. Oui. Non, mais c'est quand même un phénomène français. Ça n'existe nulle part ailleurs, une telle production. Je trouve ça très bien. Simplement, ça entraîne une conséquence, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui nous orientent dans cette production et qui rendent compte de cette richesse. Ce qui me gêne plus, c'est pas la production, c'est l'écart entre cette diversité de la production. Je crois que la littérature française n'a jamais été aussi créative ni aussi diverse qu'aujourd'hui. Et les gens qui en rendent compte. Je veux dire que la caricature, c'est 700 livres à la rentrée et on ne vous parle que d'Angot, en gros. Tous les journaux ne vous parlent que de ça. Et ça, c'est monstrueux, oui. Je veux dire qu'il devrait y avoir quand même une sorte de pudeur dans la distribution de l'information par les gens qui sont chargés de le faire.
Et ça, c'est ce que font les libraires et ce que font les bibliothécaires en France, Pierre Jourde.
Oui, c'est pour ça que dans cette profusion, les auteurs qui ne sont pas systématiquement sur le devant de la scène ne peuvent plus compter que sur le réseau des libraires indépendants. C'est fondamental pour moi, pour des gens comme Éric Chevillard. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait trouver un public. Or, il est vrai aussi que ces libraires indépendants ont de plus en plus de mal à exister, à vivre économiquement. Voilà, ça c'est ça le véritable problème. Je crois pas que ça soit le véritable problème, soit cette surproduction que vous mentionnez, que je considère plutôt comme un bien en fait.
Alors Pierre Jourde, est-ce qu'il faut une politique culturelle, ça veut dire quoi, une politique culturelle d'ailleurs, pour vous, Pierre Jourde?
Oui, il en faut. Oui, il faut une politique culturelle, puisque le problème de l'objet culturel, comme le livre, mais comme le film, comme tout objet culturel, c'est que c'est à la fois un objet marchand, qu'il faut le vendre, voilà, il faut qu'il rapporte quelque chose, et en même temps, c'est un objet qu'on ne peut pas complètement abandonner à la marchandise, sinon la production va se restreindre en effet aux blockbusters, que ce soit les blockbusters de cinéma ou les blockbusters de littérature. Il faut un protectionnisme d'État, bien entendu, et d'une certaine manière, ça a toujours été comme ça, en tout cas en France. Et heureusement, je veux dire que sinon nous n'aurions pas Molière.
Mais alors, comment évolue cette politique culturelle d'État, Pierre Jourde, que ce soit pour le cinéma, pour la littérature, pour les arts plastiques, pour les théâtres, pour tout?
Elle évolue en créant une réglementation, ce qui est très difficile à un moment où tous les moyens de diffusion se démultiplient, notamment Internet, notamment le numérique, etc. Mmh. Et l'État court sans arrêt après une réglementation possible d'objets qui lui échappent de plus en plus parce que ça va très vite. Alors le prix unique du livre, c'était une mesure essentielle qui a été prise par Jack Lang, qui a vraiment permis aux petites librairies dont on parlait tout à l'heure de vivre.
Obliger les chaînes de télévision à s'associer à la production du cinéma, ça aussi, voilà. C'est une politique.
Absolument, ça c'est absolument essentiel.
Mais qui ne résiste pas au temps nouveau.
Oui, c'est comme on disait, les choses vont un peu vite, mais je crois vraiment aux organismes de. Alors, on a parlé aussi du CNL, par exemple, pour le livre, hein, qui aide. Alors, non seulement les auteurs, mais qui aide les revues. Une revue comme La Quinzaine littéraire n'aurait pas vécu aussi longtemps sans le CNL, par exemple. Donc, tout ça est extrêmement important. Et puis, aujourd'hui, la réglementation, c'est continuer à ce qu'on puisse payer sur, par exemple, les livres numériques. Sinon, là encore, les droits d'auteur vont s'éteindre. Et quand on éteint les droits d'auteur, on éteint un petit peu, on risque d'éteindre la production.
Mais l'intervention de la puissance publique dans les affaires culturelles, dans la production aussi des idées, hein, il n'y a pas que les arts. Pierre Jourde, est-ce que ça pose problème, comme semblent le suggérer les anglo-saxons, quand ils parlent de culture française, par exemple?
Il y a toujours un danger de créer une culture d'État, de créer des écrivains soviétiques. Mais ça, c'est au terme d'une évolution regrettable. Pour l'instant, franchement, c'est, à mon avis, ça n'est pas là du tout que se situe le danger. Le danger, je le vois plutôt du côté des maisons d'édition, des éditeurs, des journaux, qui, par exemple, sont de plus en plus soumis à leurs services juridiques, qui ont peur de leur ombre, qui font lire des manuscrits par un avocat, pour éviter de froisser quoi que ce soit, de blesser quiconque, etc. Ça, c'est pas l'État qui châtre la production culturelle. Là, ce sont les éditeurs ou les journaux eux-mêmes. De plus en plus, il s'agit d'être respectueux de tout et de tout le monde. Je crois que nous n'avons jamais vécu une époque aussi à la fois respectueuse et moraliste. Je n'entends pratiquement plus de discours ouvertement immoral, même lorsqu'on évoque des questions. Alors, il y a eu le livre de qui a représenté quand même une bouffée d'air frais, le livre de Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine M, qui affichait très franchement une sexualité complètement débridée. D'une certaine manière, il y avait une dimension morale tout de même, parce que ce qui était affiché, c'est que elle n'y prenait aucun intérêt, aucun plaisir, et qu'elle explique à la fin, avec un certain humour, qu'elle préfère faire l'amour avec son mari.
Donc, plutôt que d'aller dans les casernes de pompiers. Voilà. Mais oui, on peut dire la même chose pour Christine Angot, pour Michel Houellebecq, non?
Mais c'est bien ce que je vous dis. Ouais. C'est bien ce que je vous dis. Il n'y a pas d'immoralité affichée, il n'y a pas de méchanceté, de cruauté, tel qu'on en trouve par exemple chez certains écrivains du 18e siècle. Vous avez des écrivains qui vous racontent très, très froidement, avec même un certain humour, comment un père fait l'amour avec sa fille. Essayez de trouver ça dans la littérature d'aujourd'hui, vous aurez du mal. Même dans les années 70, hein, quelqu'un comme Tony Duver ne serait même plus admissible aujourd'hui. Tellement la moraline nous a envahis.
Et pourtant, j'insiste, les auteurs ou les intellectuels qu'on considère comme politiquement incorrects sont de plus en plus populaires en France, j'ai cette impression, Pierre Jourde.
Alors, les auteurs comme politiquement incorrects. Prenons un exemple de politiquement incorrect pour le coup, c'est Richard Millet. Avec toutes les pincettes pour parler de Richard Millet, c'est très curieux ce qui s'est passé, parce que il a fait cette éloge littéraire d'Anders Breivik, le tueur norvégien. C'était à moitié un éloge. Enfin, on sentait une fascination chez Millet, et il a été aussitôt, tout le monde lui est sauté dessus. Comme vous savez, une pétition initiée par Annie Ernaux, qui a été signée par beaucoup de gens que je respecte infiniment et que j'aime beaucoup. Ce qui est très curieux, c'est que dans le journal du Monde, dans le journal Le Monde qui rendait compte de cette espèce de pamphlet de Richard Millet, il y avait à côté une page qui était consacrée au mal dans la littérature et à Bataille. C'est pas grave, parce que Bataille, il est mort, donc c'est des affaires d'hier, mais au fond, le mal tel que Richard Millet le met en scène, ça n'est plus admissible. C'est admissible chez Bataille, c'est bon, c'est fini, c'est l'inhumanité, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Millet a été viré du comité de lecture de Gallimard.
Mais son livre n'a pas été interdit. C'était beaucoup plus...
Son livre n'a pas été interdit.
C'est beaucoup plus la posture politique d'un auteur qui engageait une maison d'édition prestigieuse.
Faites attention quand même, parce que la censure, c'est vrai qu'on en fait toute une histoire, la censure d'État n'existe plus. La censure d'État n'existe plus. Mais la censure par pétition et par levée de bouclier, elle existe. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour Renaud Camus, qui a dit des choses, là encore, extrêmement discutables, mais bon, qu'ils les disent. Levée de bouclier d'intellectuel, pétition, signature, et finalement, la mort dans l'âme, son éditeur finit par caviarder le passage en question. Non, je vous dis vraiment que nous sommes à une époque
où
la moraline sévit.
Non, mais est-ce qu'on peut tout dire?
Oui, je crois qu'on peut tout dire. Je crois qu'on peut tout dire. Je pense que la loi Guesso est une mauvaise chose, parce qu'elle donne aux négationnistes l'aura de la persécution. Aux mots, il faut répondre par des mots. Et on est beaucoup plus efficace en se moquant de gens comme Dieudonné, en se moquant d'eux, en les remettant en cause qu'en les interdisant. Thank you.
à l'ère du numérique, est-ce que notre conception de la culture ne va pas complètement changer ou n'est pas appelée à évoluer?
De ce point de vue, je pense que nous vivons la deuxième grande révolution du support culturel. La première s'est passée à un moment donné à la fin de l'Empire romain, lorsque le volumen a remplacé le rouleau. Et ça, c'était un moment capital, plus capital encore que l'invention de l'imprimerie. Et là, nous en sommes là. Nous en sommes à ce type de révolution. Et comme toute révolution, eh bien, elle a ses... on va devoir oublier et abandonner un certain nombre de choses, mais je crois qu'en soi, je la trouve pas mauvaise du tout, cette révolution, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça accélère et ça universalise la diffusion des idées. Alors je vois pas pourquoi on s'en plaindrait, franchement. D'autre part parce que, pour des raisons tout simplement pratiques, le livre numérique, c'est une bénédiction. On peut emporter 1000 volumes en vacances, c'est magnifique, que demander d'autre. Et vous imaginez, pour les scolaires par exemple, les malheureux enfants avec leurs 10 kilos de bouquins à l'école, une tablette, c'est merveilleux. Et sans parler de la qualité par exemple. Je me souviens dans mes livres scolaires, la qualité absolument répugnante des reproductions d'art, des photographies, etc. Alors que là, vous pouvez faire des tas de choses, notamment en histoire de l'art, avec des tablettes qui étaient difficiles, avec des livres.
On peut faire tellement de choses qu'on a envie du coup de faire plein de choses et de passer très vite d'un sujet à l'autre, d'une page à l'autre, d'un auteur à l'autre, non?
D'abord, oui, c'est vrai, mais d'abord, pourquoi pas? Et je crois aussi que c'est ce que faisaient les gens autrefois, qu'il y avait des bibliothèques et des cabinets de curiosité. Ils passaient assez vite. Faut pas croire, hein, on feuilletait aussi beaucoup avec les livres. Au début, quand on m'a parlé blog, d'abord j'aimais pas le mot, je trouvais ça un petit peu ridicule. Et je publiais des articles dans le monde diplomatique, etc. Mais c'était très long. C'est-à-dire que le temps que, entre le moment où l'article était écrit et le moment où il était publié, j'avais l'impression que les choses avaient changé. Je tiens un blog pour le Nouvel Observateur. Et c'est très très bien. Parce qu'il y a un temps de réactivité. Je fais ce que je veux. Je le publie moi-même. J'ai des réponses qui alimentent la discussion. Alors ça vole pas toujours très haut, mais c'est quand même parfois extrêmement intéressant. Parfois il y a même des apports théoriques et informatifs qui sont très bons, très importants. Regardez ce que fait un Éric Chevillard par exemple avec le numérique. Il a créé un genre, c'est-à-dire que tous les jours sur son blog qui s'appelle l'Autofictif, tous les jours il publie 3 petits textes. À la base, sa vie quotidienne, sa vie de ce qu'il a vécu dans la journée, mais il en fait une espèce de, alors sous la contrainte du 3 petits textes, il en fait une espèce de recréation poétique qui est magnifique, qui est à mon avis un des grands genres nouveaux qu'a permis le numérique. Le problème, c'est que on a plaqué là-dessus de ces mots faux. Il y en a quelques-uns aujourd'hui dans la culture, comme rebelle, qui est le mot démocratisation. Voilà. Est-ce que Internet est une démocratisation de la culture? Sous prétexte que, vous le disiez tout à l'heure, tout est à notre portée, on peut aller partout, etc. Là encore, c'est à la fois une illusion et une escroquerie. Parce que ce qu'on nous propose est très bien, mais, à mon avis, on peut pas y accéder tout seul, on peut pas y accéder comme ça. C'est-à-dire que ceux qui savent, déjà, sauront aller chercher. Je sais aller chercher une information sur Internet quand j'en ai besoin, et je sais où il faut pas que j'aille. Et si vous n'êtes pas guidé, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'intermédiaire, s'il n'y a pas de pédagogie, s'il n'y a pas de médiation...
Si on n'a pas de culture.
Vous allez reproduire éternellement les mêmes choses. Vous allez faire... Alors, il y a une grande maladie aujourd'hui dans les copies d'étudiants, c'est le copier-coller. Tous les profs vous diront qu'ils ont des dissertations entières qui sont des copier-coller de Wikipédia. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, toute la culture du monde est à notre portée, mais ils savent pas s'en servir. Donc il faut leur apprendre à s'en servir. Je fais cours, j'en viens à parler de la symbolique des couleurs, et un étudiant intervient pour me dire « Oui, mais moi j'ai vu que dans Internet que la symbolique du bleu, etc. » Et suit un certain nombre de bêtises diffusées par Internet. Donc, la démocratisation n'existe que si quelqu'un est là pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas un accès forcément facile au savoir, puisse apprendre où aller. C'est la condition, à mon avis, de toute démocratisation. Et c'est aussi ce qui me gêne dans ces acquis de la modernité, qui en soi sont positifs, c'est qu'on prend ça comme prétexte, hein, même, je veux dire, les pouvoirs publics, l'idéologie régnante, pour dire, bon, ben voilà. Voilà, vous avez tout, c'est à vous, débrouillez-vous. Et c'est encore un moyen d'abandonner, en fait, les classes populaires à leur sort, en disant, bah, vous avez Internet, débrouillez-vous. Et là, Internet, dans ces conditions-là, Internet ne changera rien. Il ne changera jamais rien. Vous avez les gens qui savent pas faire et qui feront un copier-coller sans réfléchir à ce qu'ils font.
Mais puisque vous parliez en donnant l'exemple d'une écriture inspirée par le numérique, en donnant donc l'exemple d'Éric Chevillard, on peut même parler de vos chroniques, Confiture de culture, hein, pour reprendre le titre de votre blog Pierre Jourde, qui sont des chroniques plutôt courtes. Est-ce que ça n'oblige pas à laisser tomber le long cours, à être de plus en plus rapide, donc écrire des textes de plus en plus courts? Est-ce que Dostoïevski va être lu à l'ère du numérique aujourd'hui?
Je ne vois aucune contradiction. Il y a des moments où il faut être court, et c'est très bien, où il faut être percutant, où il faut aller vite. Et il y a des moments où, à consacrer à la longueur, c'est une gymnastique intellectuelle, certes, mais vous savez, au XVIIIe siècle, on publiait des libelles. On faisait court, on faisait circuler des feuillets. Les journaux étaient infiniment plus petits qu'aujourd'hui. On faisait très court. Et en même temps, on pouvait se lancer dans la nouvelle Héloïse. Pourquoi pas ?
La culture, c'est tout ce qui reste. Par Pierre Jourde, vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr. Émission réalisée par Thomas Duterre. On se retrouve samedi prochain pour parler des femmes au Moyen-Âge en compagnie de Julie Pilorgé. Bonne matinée, bon week-end, bel été sur France Culture. Ba da 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 ba